Europa.
Răscrucea Europei.
Stavrodromii της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. En espérant atteindre la neutralité carbone en 2050, l'Europe affiche le plus ambitieux des objectifs climatiques de la planète. Avec la crise économique post-Covid, l'Union européenne entend articuler son plan de relance de 750 milliards d'euros entre la relance économique et la transition verte dans un contexte international plus concurrentiel que jamais. Dans le cadre de son pacte vert, l'Union européenne vient même de relever son prochain palier. Objectif, moins 55% de gaz à effet de serre dès 2030, autant dire demain. Mais comment agir pour atteindre ces objectifs? Et les Européens ont-ils compris les enjeux et soutiennent-ils cette politique qui va changer leurs habitudes de consommation et d'une manière plus générale leur vie quotidienne? Ce Carrefour de l'Europe est réalisé dans le cadre des entretiens européens d'Anguin avec l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints tantôt en studio, tantôt par téléphone. Bonjour Sophia Cabège.
Bonjour Daniel Desesquelles.
Vous êtes chercheuse à l'IRIS, alors je le rappelle, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques en charge des problèmes de climat et d'économie durable, on peut dire ça?
C'est bien ça.
David Comment, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé Europe Écologie Les Verts et évidemment comme tous les députés Europe Écologie Les Verts, vous suivez les problèmes et les affaires de climat de très très près. Sébastien Treyer, bonjour.
Bonjour Daniel Desesquelles.
Vous êtes le directeur général de l'IDRI, l'Institut de Développement Durable et des Relations Internationales, mais plus précisément, en quelques mots, c'est quoi l'IDRI?
L'IDRI, c'est ce qu'on appelle un think tank en mauvais français, on dit ça comme ça, institut indépendant d'analyse des politiques publiques et en gros ce qu'on fait c'est qu'on contribue aux négociations internationales ou aux négociations européennes en faisant des propositions concrètes de comment est-ce qu'on pourrait trouver des accords plus ambitieux pour protéger le climat, la biodiversité ou l'océan.
Eh bien on y voit déjà plus clair. Charlie Burkard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du projet Plaidoyer Union Européenne à l'association Climates, en deux mots, là aussi Climates.
Climate, c'est une organisation menée par les jeunes, qui est une sorte de laboratoire d'idées et d'actions spécialisé sur le changement climatique et qui aujourd'hui est implanté dans plusieurs pays dans le monde, donc pas seulement en France, mais également en Asie et en Afrique.
Donc une vision mondiale des problèmes climatiques. Et puis, comme chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction de Courrier International ce dimanche avec Beniamino Morand. Alors, Sophia Cabège, quand on parle des objectifs ambitieux de l'Union européenne en matière climatique, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050, cela veut dire que l'on ne rejettera pas plus de carbone dans l'atmosphère que la planète sera en mesure d'en observer. C'est bien ça, la neutralité carbone?
L'idée de neutralité climatique ou neutralité carbone, dépendamment de l'acteur qui en parle, c'est en effet ça. L'idée qu'on va émettre autant, ou en tout cas atteindre un équilibre entre ce qu'on va émettre et être en capacité d'absorber. L'Union européenne s'est en effet engagée à atteindre sa neutralité climatique en 2050, mais ce n'est pas le seul État, ou en tout cas le seul groupe d'États ici à s'y être engagé. On retrouve bien sûr le Royaume-Uni, la Chine qui s'y est engagée à 2060, et c'est un objectif, il faut rappeler, qui est inscrit dans l'accord de Paris à l'article 4. On parle le plus souvent des objectifs de limitation de la température moyenne, mais celui-ci fait également partie de la législation internationale.
Alors justement, la limitation de la hausse de la température moyenne, c'est 1,5 degré que l'on vise, 2 degrés, c'est combien?
En effet, l'accord de Paris a fixé donc l'objectif de limiter l'augmentation de la température moyenne à 2 degrés, voire 1,5 degré d'ici la fin du siècle, mais malheureusement, on se rapproche dangereusement. Une étude récente qui avait été publiée en décembre 2020 nous indiquait qu'on pouvait atteindre les plus 1,5 degré entre 2026 et 2042.
Donc vraiment absolument demain.
Ah, tout à fait.
Sébastien Treyer, cette ambition climatique de l'Union européenne, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit vraiment d'un changement systémique, d'une révolution qui se met en place, je dirais, un peu familièrement en douce, sans que nous en soyons forcément conscients?
D'abord, la première réponse est oui, c'est bien d'une révolution dont on parle. Moi, j'ai tendance à dire qu'on en a beaucoup parlé. Si on écoute Madame von der Leyen, Monsieur Timmermans, donc la présidente de la Commission et son vice-président exécutif sur le sujet, on a été très clair après les élections européennes de 2019. Ce que veut faire le Pacte vert en Europe, c'est de trouver, à travers la transition écologique, le nouveau rôle et la nouvelle viabilité économique pour le continent européen dans la mondialisation pour les prochaines décennies. décennies et jusqu'à la fin du siècle. Donc on est bien en train de se dire quel est le nouveau projet de modernisation pour l'Europe. Et ben ce projet de modernisation, si on en croit ce que vient d'expliquer Sophia Cabej, ça veut dire neutralité carbone, ça veut dire en gros ce que les Britanniques appellent race to zero. Il faut que après 2050, on soit quasiment à zéro émission de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, parce que la capacité qu'on a à compenser par des puits de carbone est vraiment très faible et très fragile. Et donc, aller à zéro, ça veut dire transformer de manière radicale la plupart des secteurs économiques et la plupart des projets économiques de nos grandes régions.
Alors, David Cormand, est-ce que on peut dire que le pacte vert, qui est un petit peu la bible, hein, entre guillemets, de la Commission européenne pour réaliser cette ambition climatique au niveau européen, est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce qu'en tout cas, vous, en tant que eurodéputé Europe Écologie Les Verts, vous dites, bah oui, c'est ce qu'il faut faire et on le fait bien?
Écoutez, c'est compliqué cette question-là, parce que ça vient d'être dit. Les déclarations d'intention, notamment de Mme von der Leyen, qui est la présidente de la Commission, c'est l'équivalent de la chef du gouvernement européen, si vous voulez. C'est un peu comme une première ministre en France. Elle a un gouvernement qui sont les commissaires. Bref, ces discours semblent apparaissent comme étant ambitieux. Le problème qu'on a, c'est que la feuille de route, le détail des dispositions qui sont concrètement mises en œuvre pour pouvoir atteindre ces déclarations d'intention apparaissent insuffisantes. Un exemple, l'objectif qui vient d'être rehaussé de l'Union européenne pour limiter les rejets de gaz à effet de serre, c'est une baisse à l'échéance 2030. C'était 40% avant l'objectif, on est passé à 55%. Donc évidemment, ça paraît mieux, et c'est mieux.
Le problème, mais c'est sur le papier.
L'évaluation des experts, pour réussir, on parlait de la limite des 1,5 degrés, il faudrait non pas baisser de 55, mais de 65%. Donc vous voyez qu'il y a un décalage quand même entre la prise de conscience qui est réelle, l'attente de l'opinion publique qui est de plus en plus concrète et réelle, et cette espèce de grande machine, de grosse machine du marché de l'Union européenne qui, elle, a ses inerties et a du mal à bouger au rythme et avec l'intensité qui serait nécessaire.
Charlie Brocard, alors que ces initiatives aillent dans la bonne direction, tout le monde semble d'accord, ou presque, y compris sur les bancs du Parlement européen, mais il y a ceux qui trouvent que l'on va pas assez vite, c'est un petit peu ce que vient de nous dire David Cormand, et ceux qui trouvent qu'on ne va pas assez loin, voilà, et ceux qui trouvent qu'on va un peu trop vite. Alors vous vous situez comment? Vous êtes jeune, vous êtes dans une association qui se bat pour la limitation de la température, de la hausse de la température sur la planète. Vous vous situez comment par rapport à ces ambitions européennes?
Déjà, pour revenir sur ce que disait M. Cormand auparavant, on s'est également battu pour la limite des 65% pour qu'elle soit votée au Parlement européen. Donc, c'est une revendication qu'on portait au nom de Climate au niveau européen pour que les États s'engagent finalement sur une limite beaucoup plus importante que les 55% qu'on a eu finalement. Donc, sur le plan de la position climate, très clairement, les organisations jeunes en général, je dois dire, sont assez conscientes des enjeux. Elles veulent en faire plus, elles veulent que ça aille plus vite. Et surtout, ce qu'elles veulent, c'est que les jeunes soient entendus à leur juste valeur dans l'ensemble des arènes politiques, puisqu'on n'est pas simplement, des personnes qu'on va consulter en fin de course. Mais ce qu'on aimerait vraiment, c'est que les jeunes soient consultés, puisqu'on parle finalement de notre futur. Ça nous concerne, nous, au premier chef, et en général, on est mis à l'écart des décisions. Donc, pour répondre à votre question en un mot, ce qu'on veut, c'est vraiment plus loin et plus d'ambition pour le climat, notamment, mais aussi pour la biodiversité et d'autres thématiques qui sont tout aussi cruciales.
Sophia Cabej, alors, pour atteindre ces objectifs, il faut agir sur différents leviers. Alors, je voudrais faire un petit tour d'horizon sans être exhaustif, hein, bien évidemment. On peut agir sur l'énergie, sur le transport, sur l'agriculture. Qu'est-ce qui vous paraît prioritaire? L'énergie, c'est là qu'il y a la plus grande espoir de limiter l'augmentation du carbone.
Alors, pour limiter l'augmentation de la température moyenne, il faut agir sur tous les secteurs, et c'est bien là le défi. Et puis, en dehors du climat, en dehors de la problématique climatique, l'augmentation de la température moyenne nous amène aussi à devoir penser les liens entre climat et biodiversité, comme vient d'en parler Charlie Brocard. Et c'est d'ailleurs ce que vise finalement le pacte vert, et ça c'est important de le souligner. L'objectif de ce pacte, il va au-delà des objectifs climatiques, et c'est important de les penser ensemble. Donc, Pour répondre à la question à quel secteur faut-il s'attaquer en premier, alors bien sûr, le secteur de l'énergie, indéniablement, doit faire des efforts. On pense ici au secteur des énergies fossiles notamment. Je tiens à rappeler quand même que les derniers plans de relance des pays du G20, qui représentent quand même 65% des émissions de gaz à effet de serre, ont investi 204 milliards de dollars dans les énergies fossiles. C'est énorme et malheureusement, on s'en rend compte, on s'éloigne encore de l'objectif. Donc tous les secteurs sont importants et puis en Europe, bien entendu, l'agriculture est très importante, les transports, bref, tout est important.
Alors, quand
et
vous c'est dites bien que 264 milliards ont été investis dans les énergies fossiles, notamment le charbon et le pétrole, bien évidemment, l'Europe est peu concernée par ça.
Oui, alors l'Europe
fait exception.
Bien sûr.
Globalement.
Totalement.
Tout à fait.
Mais néanmoins, c'est important d'apporter ce chiffre. Et puis, à titre comparatif, quand même, un petit espoir. En 2020, ça a été la première année où les investissements dans les énergies renouvelables ont dépassé ceux des énergies fossiles. Mais pour autant, l'investissement même dans la production et la transformation est très inquiétante.
Mais on voit effectivement des banques, des groupes de pression qui refusent maintenant d'investir dans le charbon. L'Engie, par exemple, producteur d'électricité n'investit plus sur le charbon et va se retirer du charbon, par exemple. Il se passe des choses néanmoins.
Ah, tout à fait. On peut penser ici, bien sûr, à l'engagement de la Banque européenne d'investissement d'arrêter les investissements.
Qui se veut la banque du climat.
Absolument. Elle se réclame comme ça, en tout cas, qui promet de stopper les investissements dans les énergies fossiles d'ici 2021. Mais encore une fois, le temps passe vite et le temps, on n'en a plus. Et c'est ça, d'ailleurs, les revendications des ONG et plus globalement des scientifiques. C'est que 2021, c'est assez le proche, mais pas tant que ça. Et puis, bien sûr, il y a les autres mécanismes et instruments qui sont en train d'être mis en place. On va peut-être en parler tout à l'heure, le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières. On pense ici à la taxonomie de la BEI qui sont en train de mettre en place, un système de classification pour pouvoir flécher les investissements verts et éviter ce qu'on appelle le greenwashing. Donc, bref, beaucoup d'instruments, mais encore une fois, il reste à les mettre en œuvre. Et là est tout le défi.
Alors, David, comment ? On sent bien toute la difficulté parce que même si l'Europe est plutôt bon élève en ce qui concerne les investissements et le retour, enfin l'abandon du charbon progressif, il y a des pays qui sont beaucoup plus dépendants que d'autres du charbon. Si on compare la Pologne et le Portugal, c'est un peu le grand écart entre ces deux pays. La Pologne est traditionnellement très dépendante du charbon et même si elle envisage, de se retirer du charbon. Vous qui êtes au Parlement européen, on sent bien, vous devez bien sentir auprès de vos collègues polonais, les difficultés de leur faire prendre conscience qu'il faut faire quelque chose. Et c'est évidemment plus difficile pour un Polonais que pour un Portugais.
Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le continent européen, mais la planète en général, notre modèle économique, notre modèle dit de développement, c'est une société, moi j'aime bien appeler, société de consommation. C'est-à-dire qu'on est extrêmement dépendant, depuis la révolution industrielle, d'énergie fossile, en général. Et on reste largement, aujourd'hui encore. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on a un changement systémique à opérer de notre manière de produire et donc aussi de notre matière de consommer. Pour répondre plus précisément à votre question, oui, bien sûr, des pays comme la Pologne sont très dépendants du charbon, mais d'autres le sont et le sont de moins en moins. Je pense à l'Allemagne, qui avait un modèle, un mix énergétique, comme on dit, j'aime pas trop cette expression, mais pour qu'on se comprenne, un mix énergétique qui reposait énormément, à près de 50% sur la lignite et le charbon, et avec des choix politiques assez ambitieux, ont réussi à en sortir. Comment ils ont fait ? Eh bien, ils ont fait beaucoup d'économies d'énergie, ils ont fait beaucoup d'investissements dans les énergies renouvelables. Ça demande de l'argent. Et donc, les trois leviers, au-delà de la question des secteurs que vous évoquez, tous les secteurs, ce que je veux dire, c'est systémique, donc tous les secteurs doivent évoluer, mais quels sont les leviers institutionnels, politiques dont on dispose ? Premier levier, la fiscalité. L'intervenante précédente commençait à l'évoquer avec la contribution carbone aux frontières. On pourra peut-être en parler, la taxe sur les transactions financières, etc., etc. Il y a toute une batterie de fiscalité que je qualifierais de fiscalité juste, écologiquement et socialement, qui permettent de dégager des nouvelles recettes. Ensuite, le deuxième levier, c'est l'investissement. C'est lié au premier, d'ailleurs. Il faut de l'argent pour changer un modèle économique. Quand vous voulez changer d'infrastructure énergétique et de production, ça demande beaucoup d'argent. Et donc, c'est le levier d'investissement. Or,
on trouve de l'argent dans le plan de relance de 750 milliards, dont une partie importante, plus d'un tiers, sera consacrée à la transition énergétique au sens large du terme.
C'est très peu. Si vous voulez, le Parlement avait voté par rapport aux 750 milliards qui sont disponibles aujourd'hui. Le Parlement avait voté à 75%, donc ce n'était pas que les écolos, à un plan de relance nécessaire de 2 000 milliards. Nous, les Verts, on avait évalué plutôt ça à 5 000 milliards. C'est de ces volumes-là dont on parle. 750 milliards, quand vous avez déjà la plupart de ces fonds qui ont déjà été dépensés par les États pour répondre à la crise dans l'urgence, c'est pas là-dessus qu'on peut compter pour changer
ça,
le modèle.
Ça, c'est plutôt le projet sûr. C'est un autre budget.
Non, moi, je vous parlais plutôt du plan de relance. C'est un plan de relance nécessaire de transition pour... Enfin, un plan de relance, d'ailleurs. On ne devrait pas l'appeler comme ça, mais un plan de transition, appelons-le plutôt comme ça, qui répondait à la fois à l'urgence de la crise sanitaire et économique, mais qui utilisait ce momentum pour procéder à une évolution de notre modèle dit de développement.
Sébastien Treyer, on a parlé du charbon, on a dit un petit mot, avec des situations différentes. La Pologne n'est pas le Portugal, mais si on dit un petit mot sur le nucléaire, là encore des situations contrastées. Quand la France est en train de prolonger la durée de vie de ses centrales nucléaires, l'Allemagne les ferme les unes après les autres. On sent bien que c'est un petit peu difficile. Et quand la Pologne va remplacer ses centrales charbon par une ou plusieurs centrales nucléaires, il sera difficile quand même de lui dire qu'elle ne fait pas d'effort pour le climat, puisque effectivement, le nucléaire est une énergie décarbonée, même si elle a beaucoup de défauts, et notamment au niveau des déchets qui peuvent vivre et polluer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Alors, le nucléaire, une énergie propre, une énergie de transition?
Moi, ce qui me semble, c'est que dans le panorama que vous brossez, il ne faut pas oublier les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on espère que la Pologne va aussi faire appel à des énergies renouvelables solaires et éoliens qui sont dont le coût de production devient très intéressant par rapport au charbon. Donc il faut bien avoir cet élément-là dans le triptyque.
Et je vous coupe un instant parce que pour la première fois, les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, l'hydraulique, ont produit au niveau européen plus d'électricité que les énergies fossiles. C'est 38% d'un côté contre 35% de l'autre. Donc effectivement, il suffit de se traverser la France, et la France n'est pas spécialement en pointe, pour constater qu'il y a évidemment des champs d'éoliennes de plus en plus nombreux et qui tournent de plus en plus.
Oui, tout à fait. Pour moi, ça, c'est vraiment un élément déterminant de la période des deux dernières années qu'on vient de vivre. C'est ce basculement où l'histoire racontée par les énergies renouvelables devient crédible pour tous les acteurs de l'économie, alors qu'avant, il y avait encore des doutes. Et donc ça me semble extrêmement important. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir vivre en Europe avec des visions différentes sur le nucléaire. On comprend bien pourquoi en Allemagne, suite à Fukushima, c'était non seulement la question de la gestion des déchets nucléaires, mais aussi la question des risques, le questionnement sur la capacité des sociétés humaines à vraiment gérer le risque massif que supposent des accidents nucléaires. Et donc on comprend qu'il y ait des sociétés européennes qui soient très dubitatives sur cette technologie-là, mais on a aussi des sociétés comme la France qui ont un parc nucléaire qui, d'une certaine manière, dans les décennies qui viennent, font partie d'un morceau de la solution. La question très importante qu'on a à voir, c'est où est-ce qu'on met notre capacité d'investissement. Même sortir du nucléaire, ça suppose une capacité d'investissement. Et donc, dans chaque pays, c'est des choix extrêmement délicats, vu les enjeux budgétaires qu'a présenté David Cormann. Il va falloir faire des choix. Et il me semble que, même si les situations européennes entre États membres sont hétérogènes, c'est vrai que le plan vert pour le climat, la taxonomie, donne une direction qui est plutôt misons sur les renouvelables et misons sur l'énergie qu'on n'aura pas dépensée, c'est-à-dire tous les efforts d'efficacité énergétique qui sont quand même les meilleures énergies par rapport aux autres.
Alors l'efficacité énergétique, c'est notamment la rénovation et l'isolation des logements, neufs ou anciens.
Oui, tout à fait. C'est un des points que je trouve on a réussi à faire rentrer dans... On a réussi, la France a mis assez haut dans son plan de relance. C'était pas une évidence, parce que le secteur de la rénovation énergétique du bâtiment, ça ressemble pas à de l'innovation technologique de première main. Et pourtant, c'est extrêmement important de structurer des filières. Ça suppose de l'innovation technologique dans les matériaux et ça crée de l'emploi. Et donc, le ministère des Finances a réussi, s'est laissé convaincre que investir dans la rénovation énergétique du bâtiment, c'était bien. Maintenant, on le voit avec les résultats de la Convention citoyenne sur le climat, la manière de de faire, la manière d'inciter ou d'obliger les ménages ou les propriétaires à faire les investissements de rénovation énergétique de leur logement, c'est une autre paire de manches sur lesquelles il y a encore une énorme controverse. Donc je ne dis pas que la politique française est au bon niveau, je dis juste que ce n'était pas une évidence et que c'est déjà quelque chose d'important d'avoir réussi à convaincre que dans un plan de relance pour relancer l'économie, la filière d'énergie, de rénovation énergétique du bâtiment avait son rôle à jouer.
Alors Jean-Louis Brocard, on va laisser de côté un peu l'énergie pour dire un petit mot sur le transport. Alors, le transport, c'est la voiture, c'est le train, c'est l'avion, c'est éventuellement le bus. Et la tendance forte, c'est que tout ça devient électrique, la voiture électrique, le bus électrique, le scooter électrique et peut-être demain l'avion électrique. Beaucoup de gens y travaillent, même avec peut-être un petit peu de retard sur le sujet. Alors est-ce que le transport mu par l'électricité et la panacée qui va nous aider à passer ce cap difficile, c'est-à-dire de la transition énergétique, avec l'espoir d'atteindre, de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré ou 2 degrés maximum.
Alors là, sur ce sujet-là, je représente que ma position personnelle, et je pense que très clairement, tout ce qui est voiture électrique, avion électrique, peu importe, c'est finalement une fuite en avant technologique de plus, puisqu'on va finalement simplement substituer une énergie à une autre, ce qui n'empêche qu'on aura de l'électricité, certes, et on peut avoir de l'électricité produite avec des énergies renouvelables, mais pour créer des énergies renouvelables, il faut des matériaux rares, il faut des processus industriels qui nécessitent de l'énergie, qui nécessitent un impact sur le vivant, finalement, sur la biodiversité, sur le climat. Et tout ça, finalement, pour moi, c'est pas la bonne solution, c'est pas la manière d'envisager cette transition vers un nouveau paradigme, parce que c'est aussi une question autour de la notion de transition. Est-ce qu'on parle simplement du passage vers un nouveau modèle, ou est-ce qu'on parle d'un nouveau modèle? Parce que là, dans la question que vous me posez, ce n'est pas vraiment très clair. Si vous me parlez finalement de transition énergétique au sens où on va simplement mettre en avant des voitures électriques pour remplacer des voitures qui fonctionnent au pétrole, ou est-ce qu'on va utiliser ces voitures électriques comme une manière de passer progressivement à un nouveau modèle de société dans lequel on n'aurait finalement plus besoin de voitures du tout, ou en tout cas la part du transport en voiture serait largement réduite. Bon, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre l'accent, et pas simplement sur des solutions technologiques qui finalement nous envoient dans le mur.
Alors vous avez fait la double réponse à ma question qui n'était peut-être pas si précise.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, l'Europe affiche le plus ambitieux des objectifs climatiques de la planète, mais sont-ils compris par la population, par les citoyens, par les Européens? Et quels sont les moyens pour atteindre ces objectifs? Nous sommes avec Sophia Cabège, chercheuse à l'IRIS, avec David Cormand, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, avec Sébastien Treyer, directeur général de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, et avec Charlie Brocard, que l'on vient d'entendre, responsable du projet Plaidoyer Union Européenne pour l'association Climate. Alors, pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, Charlie Brocard, nous allons faire un petit tour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Benjamin Morant.
Bonjour Daniel.
Nous allons, avec vous, traverser la Manche. C'est un papier du Daily Telegraph qui a retenu votre attention. Et le quotidien britannique, certes londonien et conservateur, n'est pas très tendre vis-à-vis de la transition écologique. C'est bien ça?
Tout à fait Daniel, oui. Alors déjà, partons du titre. Le titre de l'article est déjà très très explicite, hein. Voire je le définirais même un peu effrayant, parce que c'est l'envers de la révolution verte. Alors pourquoi l'envers? Y a-t-il une face cachée de la transition écologique? Bien, selon ce papier, qui décrit un peu, si vous voulez, la nature de l'effort national britannique pour combattre le changement climatique, la réponse c'est oui. Alors pourquoi? Parce qu'il donne en fait l'exemple, par exemple, des éoliennes. À Londres, on construit de plus en plus d'éoliennes, et dans le futur, on va en faire toujours plus, justement, pour combattre le changement climatique. Mais en fait, on ne le sait peut-être pas, mais à l'intérieur de ces drôles d'engins, il y a souvent du néodyme et du dysprosium. Alors, peut-être que ces noms ne vous disent rien, moi, ils ne me disaient rien non plus, mais en fait, ce sont des métaux, et plus précisément des métaux qu'on appelle dans le jargon des terres rares. Et ces terres rares, en fait, pour les trouver, il faut creuser. Et ce que nous explique l'article, c'est que c'est une pratique qui est vraiment dévastatrice pour l'environnement. En fait, je cite un exemple pour faire mieux comprendre, qui est dans le journal anglais. Pour extraire un seul kilo de gallium, qui est une de ces terres rares, justement, il faut excaver 50 tonnes de roches. Alors, c'est facile de s'imaginer que si la planète entière se mettait aux énergies renouvelables demain, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc le problème, c'est que batterie rechargeable, ampoule à faible consommation ou même moteur de voiture électrique, tous ces produits ont besoin de terres rares pour être fabriqués. Et en plus, dit l'article, on ne sait même pas vraiment recycler efficacement ces produits aujourd'hui. Donc toutes ces considérations, en fait, elles portent à une question déroutante et paradoxale par laquelle se conclut l'article, c'est ne sommes-nous pas en train de détruire l'environnement à cause de nos efforts pour tenter de sauver le climat?
Merci Benjamin Morante, Courrier International, l'Hebdo et courrierinternational.com, le site. Sophia Cabège, cet article pose quand même une vraie question. Est-ce qu'on passe pas d'une dépendance à une autre? Et finalement, en essayant de résoudre le problème d'aujourd'hui, on crée celui de demain.
Oui, c'est une question qui est très importante et ici on rejoint un petit peu les propos de Charlie Brocard parce que ce à quoi il faisait référence, c'est un petit peu notre empreinte à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. De combien d'énergie avons-nous besoin pour vivre finalement? Alors si on transpose en effet nos besoins énergétiques d'aujourd'hui sur lesquels, pour lesquels on dépend du pétrole, du gaz, bref d'énergie fossile vers ces énergies renouvelables, en effet, on risque de détruire l'environnement et on risque également d'accentuer les risques de stress hydrique. Il faut savoir que la transformation de tous ces matériaux rares demande une quantité d'eau exceptionnelle et hallucinante. Et à ce titre, il faut quand même rappeler que le changement climatique a également pour effet un changement de la pluviométrie, des phénomènes de sécheresse, bref, de la raréfaction de l'eau. Et donc, en effet, il faut y penser. J'aimerais également pouvoir souligner les dessous de ce qu'on appelle la neutralité climatique, parce que comment on peut l'atteindre? Alors il s'agit notamment en effet de baisser, de réduire les émissions qu'on émet, mais il faut aussi pouvoir les capter et les stocker. Alors ça, on le remarque notamment à travers les travaux du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts qui vient étudier le climat et qui guide l'action politique, qui guide notamment les COP, dans lesquels on voit que pour atteindre cette neutralité climatique à 2050, on va avoir besoin de déployer massivement ce qu'on appelle des technologies à émissions négatives. Ces technologies, leur objectif, c'est d'avenir capter le carbone et le stocker dans différents endroits, dans des puits de carbone naturels ou non. Et ces puits de carbone peuvent être utilisés à travers des technologies qui sont, encore une fois, qui nécessitent encore une fois des matériaux, des transformations et puis des terres, hein, l'usage de terres qui, encore une fois, les terres arables viennent à se raréfier et sont nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire autour du monde.
David Cormand, juste un petit mot sur ce sujet. On sent bien la complexité et les contradictions dans lesquelles on est les uns et les autres en voulant changer le climat. C'est pas si facile que ça. Et oui, comme je le disais à l'instant, on règle un problème en créant un autre, peut-être.
Oui, parce que c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, mais Charlie l'a dit, Brocard l'a dit très bien également, c'est-à-dire que si la logique de la transition, c'est de substituer dans un même modèle économique, dans un même modèle de consommation, une source d'énergie par une autre, on ne s'en sortira pas. Et donc, c'est là où il y a un changement, encore une fois, systémique à opérer, qui est, si vous voulez, au fond, de passer d'une promesse intenable d'abondance. La société moderne, depuis la révolution industrielle, c'est au fond la promesse d'abondance pour tous, quelles que soient les conséquences, et dans une logique d'économie dite extractiviste, que ce soit de l'extraction de matières premières et ou de l'extraction d'énergie fossile, à une société de sobriété juste. C'est pour ça que tous les plans verts, tous les plans climat, tous les sommets internationaux, etc., que vous pouvez imaginer, on va se mettre d'accord sur le diagnostic. Mais pour sortir de ce modèle dans lequel nous sommes, ça ne sera pas uniquement par une surenchère technologique. Entendons-nous bien, la technologie, elle est nécessaire. Mais et d'ailleurs, l'exemple de l'isolation des logements est un très bon exemple. L'innovation, elle ne passe pas forcément par une surenchère technologique. Elle passe aussi par des choses assez simples. C'est très vrai aussi en agriculture. Et donc, vous voyez qu'il y a, là, on a cité, et l'article auquel vous faisiez référence, bon, était peut-être un peu alarmiste, mais il repose sur des faits qui sont réels. Vous avez aussi tout le secteur énorme du numérique. Le secteur numérique tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est pas le numérique en soi, c'est tel qu'il est conçu aujourd'hui, il repose sur, même si on a l'impression qu'il est virtuel, il repose en réalité sur des infrastructures et sur des matières premières qui sont extrêmement concrètes, réelles, et qui coûtent, en matière environnementale, un coût incroyable pour aller chercher les matières premières nécessaires à la fabrication de ces produits.
Sans parler de l'énergie pour que ça marche.
Il faut une logique qui, de sobriété, y compris quand on met en place de la production d'énergie issue du renouvelable, il faut un design, ce qu'on appelle l'éco-design, une conception des appareils qui permette de recycler les matériaux rares nécessaires à ces technologies, parce que si on est toujours dans la même logique extractiviste, effectivement, on s'en sortira pas.
Sébastien Treyer, je l'ai dit un peu dans mon propos introductif, l'Union européenne affiche les plus grandes ambitions en matière climatique avec des concurrents qui, dans le reste du monde, ne partagent pas forcément ces mêmes préoccupations vertes. Alors certes, les États-Unis avec Joe Biden sont de retour dans l'accord de Paris sur le climat, mais qu'en est-il de la Chine, dont les positions sont peut-être un peu plus ambiguës, sans parler du Brésil, pour citer un exemple. Alors ce qui donnerait quand même à ces pays peu préoccupés par la lutte contre le réchauffement climatique un avantage concurrentiel. Alors pour donner un exemple, Renault qui fabrique des voitures et qui a besoin de tôle, elle pourrait plutôt que de les acheter à Arcelor Dunkerque, qui sera évidemment contrainte de faire des efforts en matière environnementale, de se fournir en Turquie où il y a des aciéries qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes. Alors d'où l'idée centrale d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qu'on appelle aussi la taxe carbone. Alors Sébastien Treyer, tout le monde ne sait pas forcément comment fonctionne la taxe carbone. Est-ce que vous pouvez essayer de nous éclairer en quelques mots assez simples ?
Alors écoutez, je me permets juste avant d'expliquer le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, de dire que le panorama international est peut-être pas aussi sinistre que celui que vous avez décrit, c'est-à-dire que il y a quand même eu des déclarations très intéressantes des économies qui sont vues comme parmi les plus innovantes de la planète en Asie, la Corée du Sud, la Chine, le Japon, qui disent viser aussi la neutralité carbone. Et on peut leur donner le bénéfice du doute, le plan quinquennal chinois 2021-2025 va être publié vendredi ou en début de semaine prochaine. Voyons voir. Mais normalement, quand la Chine annonce quelque chose, elle met les moyens derrière. Donc, il faut quand même se représenter une planète où la course aux énergies vertes, aux économies d'énergie, à une économie neutre en carbone, c'est quand même plutôt ça l'horizon de modernité qui est en train d'être brossé à la fois par l'Europe, la Chine et un certain nombre de pays innovants. Donc ne mettons pas l'accent que sur les pays qui vont dans l'autre sens.
J'ai bien compris maintenant, le sens de votre intervention, Sébastien Treyer. Regardons plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. J'ai bien compris l'idée. Alors, la taxe carbone et ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.
Alors, ce mécanisme, l'idée, c'est de dire qu'on va, en Europe, mettre sous pression nos industries pour que, par exemple, en faisant monter le prix du carbone sur le marché carbone, le marché...
Mais on a du mal un peu à comprendre ce que ça veut dire, faire monter le prix du carbone sur le marché. Moi, je vais au marché, j'achète jamais une demi-tonne de carbone, et je suis pas le seul. Donc, essayez d'expliquer un peu plus simplement avec des mots simples, de façon à ce que tout le monde comprenne.
Alors, je vais essayer. Ce qui existe aujourd'hui en Europe, c'est un système qui ne s'adresse pas aux particuliers comme vous et moi. Donc effectivement, nous n'avons pas accès au marché du carbone, mais où un certain nombre de secteurs industriels ont une limite d'émission de gaz à effet de serre, et s'ils veulent émettre plus que ça, ils doivent acheter sur un marché du carbone le droit d'émettre un peu plus que ça, et ils l'achètent à d'autres industries qui auront fait plus d'efforts. Et donc ce mécanisme-là, avec une logique d'offre et de demande de ceux qui ont besoin d'acheter des droits à polluer parce que en fait ils n'ont pas fait assez d'efforts, et des ceux qui peuvent en vendre parce qu'ils ont fait plus d'efforts, ça fixe une espèce de prix du carbone pour ces industriels qui eux regardent ça avec beaucoup d'attention. Évidemment, vous et moi au marché, on regarde pas ce prix-là, mais pour les grands secteurs économiques européens, ils le regardent.
Alors pour faire simple, c'est les pas gentils qui polluent beaucoup achètent du carbone à ceux qui font des efforts pour justement leur permettre, les aider à continuer de pouvoir faire ces efforts. Je le dis avec des mots simples, mais est-ce que c'est un peu ça ?
Un peu ça. Et alors, ça peut être évidemment critiqué comme mécanisme. Sa rationalité économique, c'est de dire que ceux qui font pas d'efforts, ils sont en fait pénalisés parce qu'ils doivent payer. Ils doivent acheter quelque part leur droit à polluer, et généralement, ça va les inciter à réduire, à faire plus d'efforts.
Alors, c'est une idée très européenne. Est-ce qu'elle va être acceptée par les autres pays ?
Alors attendez, la seule chose que je dois ajouter aussi, c'est que aujourd'hui, ce marché du carbone, il n'est pas le niveau du prix du carbone que doivent payer les grands industriels n'est pas suffisant pour les inciter fortement à changer. Et donc, si on veut aller à moins 55%, voire moins 65% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 en Europe, il va falloir faire monter ce prix du carbone, c'est-à-dire en gros réduire ce qu'on autorise les industriels à émettre comme gaz à effet de serre. Ça va obligatoirement faire monter ce prix du carbone sur marché carbone européen.
Petite idée, une tonne de carbone, c'est à peu près 40 euros, c'est ça la tonne, c'est à peu près ça ? aujourd'hui ?
Oui, c'est ce que j'ai comme ordre de grandeur.
D'accord, comme ordre de grandeur. Voilà, on comprend un petit peu mieux. Bon, en tout cas, je reviens à cette question. C'est quand même une idée très européenne. C'est, pour le coup, c'est un peu une usine à gaz aussi, hein, si vous me permettez cette expression. Est-ce que ça va être accepté par les autres pays, avec évidemment un risque de rétorsion ? Si vous taxez mes entreprises, eh ben moi, je vais vous taxer aux frontières par un autre moyen, droit de douane ou complexité, pour ne pas importer vos produits.
Alors, vous avez raison. Ce que je voulais juste mentionner, c'est qu'en fait, j'étais pas encore au bout de mon histoire. Parce que, en étant simple, il faut décomposer. Là, je vous parlais du prix du carbone qui s'impose aux industries européennes quand elles produisent en Europe. Ce que la Commission européenne veut mettre en place, c'est l'idée que si on fait monter ce prix-là en Europe, il va falloir faire que les importations qui viennent en Europe payent à peu près le même prix sur leur contenu, sur les émissions de gaz à effet de serre qui ont présidé à leur production. Et ça, effectivement, un certain nombre de pays vont peut-être taxer ça de protectionnisme. Il faut voir quand même que ce que vous appelez une usine à gaz, peut-être à juste titre, parce que c'est quand même un peu compliqué à comprendre pour les citoyens, c'est des choses qui existent en Chine, c'est des choses qui existent au Québec et en Californie, et donc il y a quand même dans pas mal de pays de la planète des équivalents de ces marchés du carbone. Et aujourd'hui, pour moi, un des grands enjeux de ce que devrait faire l'Union européenne dans ses discussions, notamment avec la Chine et avec les États-Unis de Joe Biden, c'est essayer d'expliquer que cette protection pour éviter que les importations qui viennent en Europe ne soient favorisées parce qu'elles auraient moins à payer pour leur pollution en termes de climat. Cette protection que l'Union européenne veut mettre autour de ses frontières, elle n'est pas une logique de protectionnisme contre les autres. Elle est dans une logique d'essayer de donner les conditions pour qu'on fasse la transformation des secteurs extrêmement radicaux dont on vient de parler depuis le début de cette émission en Europe et qu'en parallèle, ça envoie aussi les bonnes incitations à ceux qui vont exporter vers l'Europe. Mais à ce moment-là, il faut que ça soit d'une certaine manière compris et co-construit avec les pays qui sont exportateurs vers le marché de l'Union européenne.
En tout cas,
pour l'instant, moi, mon impression, c'est que la Commission européenne a beaucoup conçu ce mécanisme pour parler aux Européens, parce qu'entre États membres, on n'était pas tellement d'accord. Et maintenant, il faut vraiment faire un énorme effort de diplomatie et de pédagogie pour en parler aux Indonésiens, aux Brésiliens, aux Chinois et essayer d'avoir les Américains comme alliés.
Voilà, donc si on veut un peu de pédagogie, de diplomatie, si l'Union européenne se veut montrer l'exemple au reste du monde. Autre grande question, les populations vont-elles suivre ? Comment provoquer un changement systémique sans bouleverser la société ? Alors on peut rappeler que lorsqu'il a été question il y a quelques années, il y a 2 ans environ, d'augmenter de quelques centimes le prix du gasoil et du carburant d'une manière générale, ça a donné en France les gilets jaunes. Or, ce qu'on vient d'évoquer, là, cette transition écologique, eh bien ça va apporter des modifications profondes. Pour ne prendre qu'un seul exemple, au niveau de l'emploi, il faut beaucoup moins de monde pour produire une voiture électrique qu'une voiture thermique. Alors, qu'est-ce que les citoyens sont prêts à changer dans leur vie pour changer de monde ? Marie Afonso a posé la question dans les rues de Paris du côté du 15e arrondissement.
Le tri, les consommations électriques, éteindre la lumière en sortant, fermer l'eau quand on se lave les dents. J'essaie de consommer français au plus pour éviter toutes les importations et donc les consommations en essence, etc.
Le tri et je coupe mes radiateurs la journée. Je fais mes tubes pour pas utiliser d'emballage carton le midi.
Le tri sélectif, c'est super important. Je roule pas trop avec mon véhicule, j'ai tendance à rouler avec mon vélo. Mais aussi je me sens concerné au niveau de mon métier qui est centré sur l'énergie renouvelable, l'optimisation énergétique. Et moi j'habite en appartement à HLM. Du coup je mets en place les mousseurs économiques. Je bride aussi la chasse d'eau des sanitaires et je pense que c'est l'affaire de tous, l'environnement.
Il y a bien évidemment les usages quotidiens du tri sélectif où je suis assez vigilante. Le chauffage également, faire attention aux passoires électriques. Voilà, je vais changer mes volets prochainement aussi pour ça. C'est vrai que ça paraît des fois un peu futile vu les enjeux. Mais on le fait quand même. Mais je suis pas sûre que de trier un pot de yaourt, ça change la face du monde. Et c'est vrai que tout ça nous interroge avec cette pandémie et qu'on n'en fait pas assez, c'est clair.
À part faire du recyclage, marcher beaucoup à pied, prendre les transports en commun, essayer d'améliorer les choses. Mais j'ai un petit niveau, hein, c'est moi seul. Hein.
Ouais, vite fait, pas vraiment. Quand même un minimum, mais ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête au tri et voilà.
Hein. Je sais que c'est problématique, je me sens concerné, mais bon, je fais rien, quoi. Je ne sais pas quoi faire pour aider, pour... Voilà, c'est ça, quoi. Et qu'on arrête un peu d'aller dans l'espace, que ça sert à rien. pour l'amour du ciel. Occupons-nous de la terre, que c'est mieux. Et après, on verra.
Alors, peut-être qu'il, de temps en temps, faut voir la terre de haut pour mieux s'en occuper. On va laisser ça de côté parce que je pense évidemment que l'espace et l'industrie spatiale a quand même un certain nombre de qualités et permet de voir un peu l'évolution de la marche du monde, notamment avec les satellites d'observation. Alors, David, comment, lorsque vous entendez, ces citoyens un peu rencontrés au hasard par Maria Afonso, on peut quand même se dire que ça risque d'être un peu juste comme engagement citoyen, éteindre la lumière, trier les déchets, mettre son petit pot de yaourt dans la bonne poubelle, je roule avec mon vélo mais un petit peu, je fais attention au robinet d'eau, ça risque quand même d'être un peu juste. Il y a un décalage qui me paraît énorme entre ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les ambitions au niveau gouvernemental, européen, et puis la perception qu'en ont les citoyens.
Non, moi je trouve au contraire que les citoyennes et les citoyens que vous avez interrogés sont très lucides, c'est-à-dire qu'eux, ils font leur part, ils sont extrêmement lucides sur le fait que c'est pas parce que eux vont uniquement agir à leur niveau que ça va changer de modèle. Et je trouve que c'est plutôt intéressant, cette lucidité. Et elle est d'autant plus intéressante que c'est juste, parce que figurez-vous que ça a été évalué. C'est-à-dire que pour changer les choses en matière d'atteindre nos objectifs des accords de Paris, si on se réfère toujours à cette référence-là, si j'ose dire, c'est 75% les collectivités et les entreprises qui doivent changer leur fonctionnement. Donc c'est très bien que les citoyens le fassent. D'ailleurs, ça me fait penser à la Convention citoyenne pour le climat qu'il y a eu en France, où on se rend compte qu'en réalité, c'est les décideurs qui ne sont pas prêts au changement. Les citoyennes et les citoyens, eux, ils y sont tout à fait disposés, ils comprennent les enjeux, ils comprennent que ce qu'ils peuvent faire à leur échelle a ses limites, mais ça ne les empêche pas de le faire. Et donc maintenant, c'est aux décideurs de prendre les choses en main et d'être à la hauteur des enjeux.
Mais Sophia Cabej, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire David Coran, parce que quand même, ça va changer plein de choses. Par exemple, les bouteilles plastiques pour l'eau minérale, faut dire adieu. Les week-ends aux quatre coins de l'Europe avec un billet d'avion qui coûte 50 euros pour aller à Lisbonne, Barcelone ou Budapest, faut bien voir ce que... Faut dire adieu à tout ça, hein. Et alors, je pense pas que les citoyens en soient réellement conscients.
Alors, en être conscient, oui, ça c'est une bonne question. Mais j'aimerais revenir un petit peu sur, en effet, ce qu'on dit les différentes personnes interrogées. Moi, je suis assez contente de voir qu'ils font ces petits efforts. Alors, certes, ça ne va pas tout changer, mais en tout cas, ça y contribue et ça y contribue forcément positivement. L'autre enjeu qu'il faut souligner, c'est en effet la responsabilité des entreprises à l'échelle internationale, à l'échelle française aussi. Une étude d'Oxfam très récente tire une sonnette d'alarme assez impressionnante. 4 entreprises françaises que je peux citer peut-être, dont la BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole notamment, émettent 4 fois plus que la France à elle toute seule. Alors, on va où comme ça? On va pas bien loin. Et notamment
à travers leurs activités. Quelle finance?
Les activités qu'elles financent, tout à fait. Et ça, c'est très, très inquiétant. Alors, les citoyens, je pense... qu'ils seront à même de changer à mesure déjà qu'ils comprendront l'ampleur de la crise qu'on rencontre. Et ça commence à être le cas. On l'a vu avec les marches pour le climat des deux dernières années. On le voit à travers la mobilisation, que ce soit en France ou ailleurs. Mais l'enjeu, en effet, de la compréhension, de la complexité du changement climatique et pourquoi il est important de changer, elle est là. Pour autant, en effet, la responsabilité retombe sur les décideurs. Et c'est un peu facile de demander aux citoyens de faire sans qu'il y ait de changement structurel. Et cette transition, encore une fois, cette transition, elle doit venir des politiques et ça doit être un signal politique qui doit être donné, qui est en train d'être donné, mais en tout cas, dans les actes, on en est encore loin.
Jean-Louis Brocard, j'ai envie de vous entendre un peu sur ce thème. Donc, effectivement, Sophia Cabej l'expliquait, il y a des marches pour le climat, il y a un déclaratif qui est très 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 fort, mais est-ce qu'il y a une prise de conscience selon vous? Est-ce que finalement les jeunes que vous représentez, on va le dire comme ça, ici autour de cette table ronde, sont finalement prêts à changer le mode de vie qui est quand même très consumériste? On est quand même très très prêt à sauter sur le dernier smartphone, on est quand même prêt à passer un week-end dès qu'on peut en prendre un avion et plutôt que le train, parce que le train ça prend forcément plus de temps, etc. Donc est-ce que vous avez le sentiment que les citoyens, notamment les jeunes, sont prêts à changer leur mode de vie?
Déjà, j'aimerais revenir à ce que disait Sophie Cabej juste avant. Parce que pour moi, il y a vraiment un enjeu de changement structurel. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'arrivera pas à changer les comportements individuels si la structure du système elle-même ne change pas. Je prends un exemple très simple qui est la taxe carbone qu'on a évoquée tout à l'heure. La taxe carbone, pourquoi ça a créé les gilets jaunes? Parce que les personnes qui finalement devaient payer plus pour leur essence ne pouvaient pas faire autrement que de prendre leur voiture pour aller travailler. Et pourquoi? Parce que finalement, depuis les années 60, la distance travail-maison a augmenté, enfin a été multipliée par 4. On est passé de 9 km en moyenne à 40 km. Et ça, c'est pas du tout le fait des citoyens, ni des jeunes, ni des moins jeunes.
Mais ça ne changera pas en 24 heures.
Ben bien sûr que non, mais c'est pour ça que c'est important d'en parler dès maintenant, pour qu'on puisse prendre les solutions qui s'imposent. Et pour revenir sur la question plus précisément des jeunes, je pense que très clairement, la prise de conscience est là. Il y a eu l'année dernière un grand sondage lancé par Arte et On est prêt notamment, qui a donné la parole aux jeunes, à 400 000 jeunes, sur ces questions-là qui ont trait à la transition écologique et un nouvel modèle de société. Et bien finalement, même sur la question par exemple du végétarisme, qui est assez... polémique. Sur la question du végétarisme, la plupart des jeunes interrogés étaient en capacité et voulaient changer de modèle alimentaire. Et quand on touche à des enjeux aussi importants que le mode alimentaire, qui est finalement lié aussi à d'autres points comme la question sociale, la question culturelle, etc., et que les jeunes nous montrent, et que moi, en tant que jeune également, je fais cet effort-là, je pense que justement, ça montre qu'on est prêt à faire partie d'un monde nouveau, qu'on est prêt à être en proposition également pour construire ce monde nouveau avec les politiques. Et je pense que, comme disait David Cormand auparavant, il faut simplement que maintenant les politiques se saisissent de tout ce qui existe au sein des citoyens et citoyennes, toutes les propositions qui sont faites, toute l'énergie qu'il y a, et que finalement les choses changent.
Sophia Cabège, on se rapproche du terme de l'émission. Le prochain grand rendez-vous, c'est la COP26 à Glasgow. Ce sera en novembre, peut-être en présentiel. A priori, c'est ce que les Britanniques essayent de mettre en place. Quel objectif? Qu'est-ce qui en fera un échec ou une réussite?
Alors, la COP26, c'est une échéance qui est très très importante dans le cadre des accords de Paris. Pourquoi? Parce que en 2015, lorsque l'accord de Paris a été adopté, les États signataires se sont mis d'accord sur le rehaussement de leur contribution nationale déterminée au niveau national, en fait, leurs objectifs de réduction des gaz à effet de serre tous les 5 ans. Donc, ils en ont soumis en 2015. Ils devaient les soumettre d'ici fin 2020 pour la COP26 qui devait se tenir l'année dernière et qui a été reportée en 2021. Et c'est donc une échéance cruciale de rehaussement des ambitions parce qu'on le sait, à l'heure actuelle, en tout cas, les engagements des États sont insuffisants pour permettre de limiter l'augmentation de la température. C'est donc un rendez-vous politique très important pour rehausser cette ambition et aussi pour pouvoir rehausser le niveau de financement attribué aux pays en développement. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais il faut le rappeler, les personnes les plus vulnérables et les personnes les plus pauvres sont celles qui seront les plus touchées par le réchauffement climatique et par l'augmentation de la température moyenne. Et donc, et on est dans le devoir, et c'est d'ailleurs écrit dans l'accord de Paris, de les soutenir à ces fameux 100 milliards de dollars par an qu'on n'a pas atteint. Il s'agit ici de pouvoir aussi les rehausser. Donc la COP26, c'est un rendez-vous attendu de tous pour justement pouvoir rehausser ses ambitions.
Eh bien, merci Sophia Cabège, Iris, David Cormand, Europe Écologie Les Verts, Sébastien Terrier, Ivry et Charlie Brocard, Climate. Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Muni avec Maria Afonso et Benjamin Omerand de Courrier International. Sur la page de l'émission des infos sur nos invités, pour écouter ce Carrefour de l'Europe, RFI.fr, rubrique podcast, et vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast de l'émission via votre plateforme préférée, par exemple Google, Apple ou Deezer, qui entre parenthèses consomment beaucoup d'électricité. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Lesquelles, où que vous soyez, en Europe ou dans le reste du monde, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Géopolitique, le débat.
À la veille de la